De retour au Rendez-vous de nature, on rejoint maintenant notre collaborateur, l'animateur de la populaire série télévisée Aventure Chasse-Pêche et président aussi du magazine spécialisé du même nom, Martin Bourget. Martin, j'ai été estomaqué cette semaine en lisant une pétition en ligne « Stop à la chasse » sur le site mesopinions.com. On écrit « Il faut mettre fin à la chasse sous toutes ses formes et partout dans le monde. Ce n'est pas un loisir, mais c'est la mise à mort d'être vivant. On serait sûr et à juste titre scandalisé si on imposait cette souffrance à un être humain. Stop à la chasse, stop à cette cruauté. » Tu réagis comment à ça?
C'est triste, mais il faut presque excuser ce genre d'opinion-là parce que ça découle directement de l'éducation que la civilisation a faite, de nos connaissances sur les animaux et, je dirais, l'annulation totale de notre souvenir de l'histoire d'où on vient, de l'écosystème auquel on fait partie. Tu sais, le genre d'opinion duquel tu parles est contrecarré par des gens aussi pesants, aussi puissants que la PETA. C'est People for the Ethical Treatment of Animals. La PETA, c'est la plus grosse organisation de protection des droits des animaux sur le plan planétaire. Je te lis textuellement leur type de réaction, pas à cette phrase-là que tu viens de me lire, mais à ce type de commentaire-là dans les dernières années. Okay?
Oui, vas-y.
La PETA nous dit, sans les activités de prélèvement des chasseurs, les cervidés et autres animaux mourraient de manque de nourriture ou de maladies occasionnées par la surpopulation directement liées à l'absence du contrôle essentiel qu'effectuent les chasseurs sur les populations d'animaux sauvages. La PETA reconnaît le chasseur contemporain en tant qu'élément vital de l'écosystème planétaire.
Voilà.
Et ça, là, c'est excessivement fort. Et là, où est-ce qu'il faut ramener les gens? Parce que souvent, tu le sais, le débat découle sur la façon de la mise à mort, la façon d'élever les animaux, la façon que les... Est-ce qu'il y a des bons chasseurs, des mauvais chasseurs? Oui, Ernie. Est-ce qu'il y a des bons éleveurs, des mauvais éleveurs d'animaux? Oui. Est-ce qu'on peut se tasser complètement de ce débat-là parce qu'on est complètement dans le champ? Non. Eh bien, oui. La réalité, c'est que si on recule au temps de la préhistoire, on va parler de l'homme d'Herteau, là. Il part, lui, le matin, là, puis il s'en va chercher de la nourriture. Il va ramener un animal qui va manger, va se servir de sa peau pour se couvrir et ses os pour faire des outils. Ça, c'est la façon que la planète a été mise en place. C'est un écosystème duquel l'homme fait partie, dans lequel il est le prédateur le plus polyvalent et le prédateur suprême responsable de la gestion des cheptels d'animaux. Dans un secteur donné, il y a une capacité de soutien pour une certaine quantité d'animaux et il y a une certaine quantité de prédateurs aussi qui sont présents sur place, dont l'homme, pour réduire la surpopulation dans les cheptels, qui enchaîne souvent contamination croisée, manque de régénération d'ADN, mort à l'agonie dans le champ. On l'a vécu ici, Jackman Armstrong, quand il y a des activistes qui ont commencé à bloquer les chasses en haut, on a eu des gros, gros problèmes dans le troupeau. La Pennsylvanie, l'exemple parfait. Problématique majeure au niveau des maladies dans les cheptels, dans les troupeaux. État qui était pointé du doigt par l'ensemble de la population mondiale sur la mauvaise gestion qu'en faisait l'État au niveau du cerf de Virginie. On se revire vers les chasseurs, on met des plans de gestion. La Pennsylvanie, présentement, quand on parle de Penn State, c'est un exemple sur le plan planétaire au niveau de la gestion des animaux à bois. Et ça s'est fait au travers des chasseurs gestionnaires. Oui, aujourd'hui, c'est un besoin... est devenu une activité.
Absolument.
Mais là où est-ce que ça blesse réellement, là où est-ce qu'on parle de blesser les animaux, faire mal aux animaux, est-ce que ce sont les chasseurs qui le font ou pas plus? Cette décision-là que l'homme a pris, encore dans son complexe de Dieu, de se regarder dans un écosystème dans lequel il a été placé, dans lequel il est essentiel, puis dire, pah, moi je suis meilleur que ça, tiens, je vais commencer à faire mes propres animaux, j'ai pas de besoin de ce qu'il y a dans le bois, ça va être plus facile aussi, ça va être plus éthique. Je sais pas pourquoi on s'est dit ça, mais ça va être plus éthique. 9000 ans avant Jésus-Christ, l'homme met en branle ses premiers élevages d'animaux pour arriver jusqu'au néolithique, où est-ce que réellement l'homme cultive des produits céréaliers, basiques, des légumes, des fruits et légumes, et a vraiment des troupeaux d'élevage. À partir de là, la face de la planète change. Puisqu'on cesse de contrôler les animaux, les cheptels d'animaux, et on commence à s'autosuffire. Là, on commence à avoir des problèmes, et on avance dans le temps, et on s'en va jusqu'à l'époque de l'Antiquité, où est-ce qu'on commence à faire des villes, des bourgs, des chemins, des routes, etc., et on commence à séquestrer les populations d'animaux de par les quadrilatères qu'on crée dans certaines parties de territoire, occasionnant des surpopulations de proies, donc de gibier mangeables dans un coin, surpopulation de prédateurs dans l'autre. On se retrouve avec des coyotes à Montréal, puis c'est juste bien drôle. On se retrouve avec quelque chose qui est totalement débalancé. qui déborde la capacité de soutien des différents milieux. On s'en avec des animaux qui meurent à l'agonie. Certains États américains dans lesquels c'est quasi impossible d'assurer une voiture, tellement qu'il y a de collisions sur les routes avec des chairs vidées, dans lesquelles on doit mettre des plans de gestion d'urgence critique pour diminuer la quantité de chairs vidées, parce qu'on a pensé bien faire en diminuant la chasse, parce qu'on était de cruels tueurs. On est venu dans nos choix en tant qu'être humain, dans notre concept, notre complexe de Dieu, s'auto-suffire, VS, qu'est-ce qui nous a été donné naturellement, dans lequel on est un acteur majeur. Et à cause de ça, on a créé un débalancement total sur le plan de l'écosystème planétaire. Et là, les seuls gestionnaires qui demeurent, et tu le dis régulièrement, Ernie, puis je suis parfaitement d'accord avec ça, alors, j'aime attribuer le titre de chasseur gestionnaire ou de trappeur gestionnaire aux gens qui pratiquent l'activité de façon responsable. Et là, on les pointe du doigt, les derniers qui font ce genre de gestion-là. Ben, attention, là, on s'en va pas changer de la viande gratuite dans le bois. Si on calcule qu'est-ce que ça coûte pour ramener un orignal à la maison, si on le prend à la livre dans notre congélateur, une fois qu'on le consomme, puis que vous venez chez moi, puis que je vous sers de la viande de gibier avec fierté, vous allez voir que ça coûte beaucoup plus cher que du triple A silver acheté où est-ce que vous le voudrez. On le fait pas pour un facteur économique. On le fait en tant qu'activité, mais on continue avec les gestionnaires de ce milieu-là, et on essaie d'enseigner cet art-là de le faire de manière responsable à nos jeunes.
Voilà.
Mais nos jeunes sont tellement bombardés de messages à la population en disant « c'est cruel, c'est cruel, c'est cruel ». Or que la vraie cruauté, c'est cette pseudo-évolution-là.
Alors,
cette espèce d'ironie-là que l'homme pense avoir faite.
Permets-moi de te couper. Je savais que je te craindrais dès le départ en te parlant de l'opposition à la chasse. Mais il reste quand même une chose. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je vis en région, je vis au Bas-Saint-Laurent, je n'ai pas, moi, à être confronté, je dirais, avec le phénomène de l'anti-chasse. Je ne sais pas dans les grands centres comment ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est en dehors du Québec. Puis ça, j'aimerais rappeler qu'il reste que c'est un ex-joueur de tennis, on s'en souviendra, il s'appelait Richard Legendre. Lui, il avait été élu du Parti québécois dans Blainville en 2001. Il avait été ministre responsable de la faune et des parcs. Et en décembre 2002, il avait déposé un projet de loi historique qui reconnaît législativement le droit de pratiquer les activités traditionnelles de chasse et de pêche au Québec. C'est la loi 147. Mais ça existe quand même depuis 2002. Mais ça fait juste 17 ans. Mais moi, je trouve qu'on est lent au Québec. Les premiers hommes vivaient et s'établissaient dans la période glaciaire. Ils vivaient déjà de chasse et de pêche, comme tu l'as dit, pour se nourrir et se vêtir. Puis le Québec est en retard aujourd'hui dans la promotion positive de la chasse au Québec. Mais il semble que nos élus manquent le train à ce niveau-là.
Hey, j'ai l'impression que le Québec, puis on le voit avec le registre des armes à feu, on le voit avec la LDC, on le voit avec beaucoup de choses. On a, malheureusement, d'après moi, ça doit être planétaire aussi, là.
Oui.
On va vers des décisions qui sont beaux dans le paraître, au final. Donc, une décision qui est belle dans le paraître, contrôler les armes des méchants chasseurs, 0.001% d'impact dans la criminalité des 100 dernières années au Canada. On y va dans un impact, on va arrêter de tuer des animaux, et répercussions majeures au niveau planétaire dans l'arrêt total de la chasse, mais c'est spectaculaire. Lorsqu'on est élu et qu'on va dire à des gens qui ont été éduqués de par ce genre de ligne de pensée-là, je vais arrêter les gens de tuer les pauvres animaux. On va chercher du vote de compassion, on va chercher vote enthousiaste du côté de protection. Oui, c'est bon de protéger les animaux. On fait dans le sensationnalisme. C'est pas la lenteur comme la stupidité, excuse-moi le terme, mais comme la stupidité des raisons pour lesquelles on veut mettre ces lois-là de l'avant, qui sont strictement pour aller chercher la ferveur populaire. Je vais vous protéger des méchants fusils des chasseurs, je vais protéger les animaux des méchants chasseurs.
Ouais.
C'est du paraître. C'est ce qui se passe. Et on est à la solde de ça, malheureusement. On a toute une pérennité au niveau de nos cheptels d'animaux et au niveau de la gestion de ces animaux-là qui est mise en jeu. Pourquoi? Pour de la fierté d'homme encore.
Voilà,
ça, c'est ce qu'on... Malheureusement, c'est ce qu'on est. Puis, juste, il faut que les gens, ils pensent, quand ils vont prendre un steak à l'épicerie, il y a une ironie énorme dans le fait de prendre un steak, dans la façon dont on a été éduqué, puis de partir à la maison avec, et de ne pas conserver la notion d'où vient ce steak-là. Il y a eu une mise à mort laquelle je participe quand je le prends, point final. Est-ce que c'est mal? Non! Est-ce que pour manger de la viande, il faut mettre à mort un animal? Mais malheureusement, ça va toujours être comme ça. Et il faut juste garder en tête que j'y participe quand je prends un steak. Alors, qui je suis pour voter ou pour crier sur le mauvais chasseur qui récolte son animal? aller voir dans l'éducation qu'on a eue, regarder un petit peu les enquêtes qui se sont faites lorsqu'on demande à des jeunes dans des écoles à Toronto d'où vient le steak, qu'ils ont mangé. Ils n'ont aucune espèce de notion. Ça vient du magasin, ça vient de l'usine. C'est là qu'on en est rendu. L'éducation qu'on a faite, la population actuelle est responsable du déclin des populations animalières et de la grande ironie que derrière la surconsommation de viande avec une mise à mort qui est inévitable, sans aucun égard envers l'animal qui a été mis à mort, alors que moi, chasseur, et mes amis chasseurs, ayons énormément de respect envers cet animal-là qui a donné des années et des hivers pour que je puisse nourrir ma famille.
Oui, puis que cet animal-là, cet animal-là, le cerf comme l'orignal, a toutes les chances de s'en sortir parce qu'il n'est pas confronté dans un enclos, puis sa destinée ne va pas nécessairement vers l'abattage, au contraire. Mais il reste quand même que j'ai l'impression que les chasseurs se tirent dans le pied en projetant une mauvaise image de la chasse. Je pense entre autres à l'appropriation de territoire qui a fait la manchette quelques années avec un reportage d'enquête. Je me souviens aussi la demande qu'il y avait eu pour légaliser la chasse de l'écureuil. Ça, vraiment, je suis tombé en bas de ma chaise quand ça a sorti. Puis tout ça reste quand même que ça porte des incidents comme ça, comme l'écureuil, qui viennent porter ombrage à la chasse, alors que il me semble que des sujets, des dossiers beaucoup plus importants et des façons de faire qui devraient plus intéresser les chasseurs que demander que l'écureuil soit inclus dans le permis de chasse du petit gibier.
Ah, définitivement. Puis c'est l'écureuil, c'est un dossier sur lequel on pourra revenir. S'il y a des pour et des contre là-dedans, on peut en discuter longtemps. Mais effectivement, le visage d'une activité est toujours nivelé par les pires de la gang. Dans quoi que ce soit. Qu'on parle des cyclistes qui roulent dans le milieu de la rue sans trop regarder ou qu'on parle d'un chasseur qui s'approprie trop de territoire ou qui tire 5 balles dans un animal pour le mettre à mort. C'est toujours à eux qu'on attribue. Et malheureusement, c'est souvent une minorité. Parce que si on se retourne et on regarde la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, la Fondation de la Fonde, qu'on regarde tous ces regroupements-là, les Sauvaginiers du Québec, les trappeurs-gestionnaires, la Fédération des trappeurs-gestionnaires, on a une majorité de chasseurs qui pourtant se responsabilisent. Est-ce que c'est des mauvais chasseurs? Oui. Est-ce que c'est des mauvais éleveurs? Oui. Est-ce que c'est des mauvais cyclistes? Oui. Malheureusement, t'as raison, le visage de la chasse est ombré par ces choses-là. Et on en paie les frais au moment où est-ce qu'on essaie tout simplement de protéger une activité qui est pas juste pour notre passion, mais oui aussi pour notre passion, mais une activité ancestrale qui demeure essentielle. Études qui existent en nombre d'années de l'affectation de ton jardin dans ta cour qu'aurait l'arrêt complet de la chasse par le débalancement total de l'écosystème.
Oui, et tu vois, tous les chasseurs ne sont pas des braconniers ni de mauvais chasseurs, comme tous les détenteurs de permis de conduire ne prennent pas de l'alcool au volant. Alors donc, c'est toujours ces éléments-là qui ressortent le plus. Martin, on pourrait continuer d'en parler longtemps. Alors donc, Martin Bourget, animateur de la populaire série télévisée Aventure Chasse-Pêche sur Télé Mag Québec et aussi président du magazine du même nom, ben, je te dis merci pour cette seconde entrevue. On se reparle bientôt et je te souhaite du bon temps à la chasse et en n'oubliant pas que le quota n'est pas un but à atteindre, hein, c'est une limite à ne pas dépasser. Alors, je te remercie puis je te dis à la prochaine.
Un grand merci à toi.
Ouais, bye.